Amen. Ce matin, on va parler de connexion artificielle. Comme vous pouvez voir, une belle bannière, une connexion artificielle. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime pas ça quand c'est artificiel. Même quand c'est vrai. Le mot artificiel veut dire qu'il manque de nature ou qu'il n'est pas authentique. Il manque d'authenticité. Le contraire d'artificiel, on pourrait dire, c'est d'être vrai, d'être sincère, d'être authentique. Le mot sincère, entre autres, veut dire réellement pensé ou réellement ressenti. C'est réel, c'est vrai. Le mot vrai qui possède aussi des caractéristiques propres à sa nature. Puis je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les dernières années, avec toutes les élections, il y a le mot « fake » qui est sorti beaucoup. « Fake ceci, fake cela ». Et la Bible nous enseigne d'être des personnes vraies, pas fake, pas artificielles. Et on vit dans une époque où presque tout peut être trafiqué, retouché, changé, amélioré, sans qu'on puisse discerner ou prendre conscience si c'est vraiment la vraie chose. Les photos. Aujourd'hui, à ce temps avec les applications, tu prends une photo, tu peux éliminer les personnes que tu n'aimes pas dans la photo. Avant, il fallait que tu découpes avec les ciseaux. Là, aujourd'hui, les applications, ça se fait tout seul. Les visages, les parties du corps peuvent être trafiquées. Les vidéos peuvent être trafiquées. Ils peuvent être aujourd'hui retouchés d'une façon que même l'œil nu ne peut même pas voir la différence entre ce qui est vrai et ce qui est artificiel. Avec toutes les vidéos, les photos qui peuvent changer, retoucher, les experts, nous sommes en train de créer, avec tout ce qui est les expertises qu'il y a dans ces retouches-là, on est en train de créer de plus en plus des choses artificielles et on est en train d'aimer de plus en plus les choses artificielles. Le vrai, l'authentique, la sincérité ou ce qui est sincère est mis à l'épreuve et même mis de côté pour quelque chose de supposément meilleur. Je vais retoucher ma photo. Ah, j'ai rien contre ça. Là, des fois, il y en a qui vont retoucher l'ombrage, le soleil, ils vont retoucher leur femme ou vont retoucher leur mari. Certains vont créer des illusions. Ils sont allés dans un endroit et ils mettent ça encore plus beau que c'est. Le défi est réel en discerner ce qui est vrai et ce qui est artificiel. Il y a même une application maintenant qui s'appelle Be Real, sois vrai. Et même avec cette application-là, ils trouvent le moyen de trafiquer leurs photos. Je le sais, j'en connais qui ont ça puis qui font des petites passes avec ça. Ça me fait penser, souvenez-vous dans le temps, là, les plus âgés, là, la bonne nouvelle GM. T'écoutais « Salut, bonjour », t'écoutais les nouvelles, puis à un moment donné, t'es supposé écouter les nouvelles, t'es supposé avoir des bonnes nouvelles, mais il n'y avait tellement pas de bonnes nouvelles qu'il fallait qu'ils commanditent la bonne nouvelle avec un commanditaire qui s'appelait GM, et t'avais la bonne nouvelle du jour. T'es supposé être des nouvelles, mais pas toujours tristes, mais le sensationnalisme, puis tout ce qui fait peur, puis tout ce qui n'est pas beau, ça l'attire des codes d'écoute. Et comme enfant de Dieu, comme frère et sœur en Jésus et comme être humain, est-ce que je désire ce qui est vrai ce matin, sincère et authentique, ou je suis en train de me satisfaire de tout ce qui est artificiel? L'humanité est confrontée à cela. Est-ce que je suis capable d'accepter ce qui est vrai? Est-ce que je suis capable d'accepter ce qui est sincère et authentique? On est confronté de plus en plus à un niveau de choses artificielles, et on a même maintenant l'intelligence artificielle. Puis on n'a pas fini. Ça va grandir. Les experts disent que d'ici 15 ans, tous les emplois répétitifs, d'ici 15 ans, 40 % de tous ces emplois-là vont être éliminés. C'est quelque chose. On vit une époque qui va être chambardé par tout ce qui est artificiel. Puis on est dedans. Mais on peut garder nos cœurs de cette tendance-là et nos pensées et même nos désirs peut-être d'aller vers ça en étant vrai et sincère, authentique dans notre relation avec Dieu et avec les autres. Ce qui est de la beauté d'une relation avec Dieu, c'est qu'elle est vraie. Ce qui est beau de notre connexion avec Dieu, c'est qu'elle est vraie. Ce qui est beau de notre connexion avec les autres, de notre relation avec les autres, c'est que c'est vrai. Être vrai. Là, je vous regarde tous, là, puis vous me regardez. C'est facile, vous avez un point de mire, c'est moi, OK? Moi, je vois tous vos beaux visages, là. Et ce matin, comme Église, on a un défi, puis il est important de rester vrai. De rester vrai. C'est important que notre Église, on puisse rester soi-même et de ne pas copier les autres et de garder notre identité en Jésus-Christ et ne pas perdre notre identité. On voit de plus en plus des gens qui veulent copier. Copier ci, copier cela. Et la Bible nous enseigne très clairement qu'on est une créature si merveilleuse. Et que tous et chacun, on est important. Et que tous et chacun, on a été créés d'une façon qu'il faut garder qu'est-ce qu'on a. Et là, mesdames, je m'adresse à vous ce matin. C'est beau, Cover Girl, mais vous êtes belle au naturel. Les boys avaient manqué d'avoir vraiment des crédits Air Miles, là, solides. Je vous ai tout mis ça, là, sur la table, les boys, à matin. Non, OK. Mais il y a une tendance à vouloir changer ce qui est vrai, ce qui est naturel, ce que Dieu nous a donné par d'autres choses. Pas de trouble à améliorer, mais pas pour perdre ton identité. Pas pour copier quelque chose d'autre. La Bible est claire là-dessus, que Dieu a créé l'Église. Il la compare à un corps. Et que le corps n'est pas un seul membre, mais formé de plusieurs membres différents. Et il dit très clairement, si le pied disait « parce que je ne suis pas de main, je ne suis pas du corps », c'est pas vrai. Si tu n'es pas comme telle personne, c'est correct. Ça fait partie du plan de Dieu. Parce que ton moule, il est unique, puis il est parfait. Puis Dieu veut l'utiliser pour un but précis. Mais il faut que tu l'acceptes. La difficulté qu'on a comme enfant de Dieu, souvent, c'est d'accepter notre identité puis vouloir copier ou atteindre quelque chose d'autre. Restons uniques, comme Dieu nous a créés. Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Dieu va même dire à un moment donné, si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ça, c'est pas vrai, ça. Si tout le corps était un œil, ou tout serait l'ouïe, où serait l'odorat, où serait tout ce qui vient avec la particularité de cette personne. Mais la Bible nous dit que maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans son corps comme il a voulu. La difficulté qu'on a, c'est de s'accepter. Oui, nous pouvons prendre des choses pour nous inspirer, pour s'améliorer, pour devenir plus comme Jésus-Christ. Amen. Mais toujours en restant vrai et authentique comme nous sommes. Il faut accepter que nous sommes qui nous sommes en Jésus-Christ, comment Dieu nous a créés, et comprendre que nous ne sommes pas une copie, mais bien une créature formée, créée par Dieu lui-même, tissée uniquement comme lui l'a voulu pour son œuvre, pour un but précis. Et c'est pour ça qu'à chaque matin, quand on se regarde dans le miroir, on devrait dire « Merci Seigneur de m'avoir fait comme je suis. » Comprendre que l'œuvre que Dieu a commencée en nous, c'est lui qui va la rendre parfaite pour sa gloire, afin que nous puissions démontrer au monde entier tout l'amour de Dieu, toute la puissance de Dieu, toute sa grâce. Tu peux et tu dois être toi-même en Jésus-Christ. Moi, je dis « Amen » à ça. Parce que Dieu t'a créé pour un but précis, et en étant vrai, sincère et authentique, tu seras en mesure de vivre vraiment ta foi, ton amour pour Dieu d'une façon qui va inspirer d'autres et attirer d'autres à venir à Jésus-Christ. Amen. Si tu n'es pas honnête avec toi-même, puis tu veux de l'artificiel, tu veux quelque chose copié, tu ne seras pas utile de la façon que Dieu t'a créé. Tu dois rester toi-même en Jésus-Christ et vivre ta foi et ton amour de la façon que Dieu t'a créé pour avoir un impact là où Dieu t'a placé pour que des gens viennent à connaître toute la puissance et l'amour de Dieu qui est manifesté dans ta vie. Mais si tu essaies de copier les uns les autres, tu vas te perdre là-dedans. Parce que tu ne seras pas toi-même. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais les gens, à un moment donné, vont te regarder, vont dire, « Mais ça, mais c'est pas vrai, son affaire. Il y a quelque chose qui cloche. » Jésus était lui-même. Jésus n'était pas juste à l'extérieur vrai, sincère, authentique. Il était vrai, sincère, authentique de cœur. Et tout commence par ton cœur et mon cœur. Ne soyons pas de ceux qui sont d'apparence ou de façade artificielle, mais bien sincères et authentiques, vrais et sincères et authentiques à l'intérieur. La Bible nous enseigne que c'est d'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui est dans ton cœur se reflète, ce qui est dans mon cœur se reflète toujours vers l'extérieur. La Bible nous enseigne que Jésus un jour a parlé dans Luc chapitre 11, verset 39. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? » Tu peux essayer de cacher ton intérieur puis faire paraître quelque chose à l'extérieur. Et l'Église peut faire ça aussi. L'Église est coupable aussi de faire ça des fois. D'essayer de bien paraître, mais en dedans, il y a encore beaucoup de difficultés puis beaucoup de choses à régler avec la grâce de Dieu. Oui, il faut se lever toujours devant Dieu et dire, avec la grâce de Dieu, on va y arriver. Mais quand que Dieu décèle des choses dans nos vies qui doivent être travaillées, soyons pas des pharisiens qui paraissent bien, mais qu'à l'intérieur, tout est croche, qu'il y a encore de l'amertume, qu'il y a encore de la colère, qu'il y a encore de la tristesse qui n'est pas réglée, du pardon qui doit être fait avec un ou avec l'autre, ou avec nous-mêmes, ou avec Dieu, ou s'il y a de la colère, de l'animosité, de la jalousie. Parce que si le cœur n'est pas changé, l'extérieur va rester le même. Parce qu'en bout de ligne, Dieu voit toutes choses. On peut déjouer les yeux des hommes et des femmes, mais on ne peut pas déjouer les yeux de Dieu. Impossible. Parce que la Bible nous enseigne que tout est nu et découvert devant celui qui nous a créés. Toutes nos pensées, là, Dieu les entend. Amen. Moi, comme pasteur, j'ai toujours eu une crainte qu'un jour Dieu mette sur l'écran toutes les choses que j'ai faites de pas correct. Au ciel, ça va être comme ça. Toute pensée, toute parole dite, toute action faite, Dieu les enregistre. Et dans son amour, il nous pardonne. Mais la Bible nous enseigne qu'on va récolter ce qu'on va semer. Moi, je prie comme Église qu'on va être vrai, sincère et authentique. Qu'on va se lancer ce défi-là d'être comme Jésus. Qu'on ne sera pas une Église de façade. Qu'on ne sera pas des frères et des sœurs de façade. Qu'on va pouvoir être capable de se regarder puis se parler. Se pardonner, s'entraider, cheminer, avancer. Toujours dans l'amour. Afin que Dieu soit glorifié. Certains d'entre nous, même pour le servir Dieu, on veut tellement copier les autres qu'on oublie que quand on copie les autres, on se tasse et on s'élimine de vraiment ce que Dieu a pour nous. Je m'explique. Si vous êtes une lettre A puis vous essayez de devenir la lettre C, il va manquer la lettre A. On va avoir deux C. On n'a pas besoin de deux C. On a besoin de A, B et C. Je ne sais pas si on saisit, là. Certains d'entre nous, on veut tellement copier les autres, on veut tellement être comme les autres, on veut tellement faire comme les autres qu'on oublie qu'on est unique et original, un modèle, hey, un vrai classique vintage, là. Parce qu'il n'y en a pas deux comme nous. Puis gloire à Dieu. Mais il faut l'accepter. Tout commence par notre cœur. Est-ce que j'ai un cœur nouveau ce matin? Est-ce que mon cœur est pur ce matin? Est-ce que j'ai une relation avec Dieu qui est authentique et vraie? Une relation de cœur qui transforme mon intérieur et qui est manifestée par l'extérieur. Amen. Si notre cœur n'est pas tout entier à Dieu, nous aurons de la difficulté d'être vrai, authentique et sincère, comme lui, il veut, à l'exemple de Jésus. De toute façon, essaye pas de te changer, tu n'es pas capable. Il y en a juste un qui peut te changer, c'est Dieu. C'est lui qui t'a créé. Et si toi et moi, on décide d'ouvrir notre cœur à Dieu, d'être vrai avec Dieu, il va nous changer, puis on va être à la ressemblance de Jésus, c'est sûr et certain. Oui, il faut faire des efforts. C'est vrai, il faut lire notre Bible, prier, venir à l'église, ces choses-là, faire ce que Dieu nous demande. Mais en bout de ligne, trop d'entre nous n'ouvrent pas assez notre cœur pour que Dieu puisse le transformer. On va en parler tantôt. Et je crois que c'est important qu'on ouvre notre cœur à Dieu. Et ici, on ne parle pas de personnes qui ont un franc-parler. Parce que des fois, on pense, pour être vrai, il faut avoir un franc-parler, il faut tout dire ce qui nous passe par la tête. Ça, c'est pas d'être vrai, ça, non. Non. On ne parle pas des gens qui ont un franc-parler ou des gens qui n'ont pas de filtre. Votre café, vous le passez par un filtre pour qu'il soit meilleur. Il y a certaines personnes qui devraient avoir du gros filtre. Parce que quand ils parlent ou quand ils disent des choses, ils n'ont tellement pas de filtre, ces gens-là, qu'ils ne prennent même pas le souci de savoir ce que les gens vont vivre. Ils ne se soucient pas des autres dans leurs paroles. Ça, ce n'est pas d'être vrai et authentique et sincère. Non, parce que l'amour de Dieu, ce n'est pas ça. Une vraie relation avec Dieu puis une vraie connexion avec Dieu, ce n'est pas ça. Tu te préoccupes de qu'est-ce que ça va faire pour l'autre. La preuve, Romains chapitre 13. Au verset 8, Romains 13, 8. « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » La seule chose qu'on doit à l'autre, c'est de l'aimer. Mais pasteur, c'est pas mal gros ça. Tu as tout compris. Puis en plus, il faut l'aimer comme Dieu nous a aimés. Ah là, tu es sérieux? Oui. Parce que si tu fais ça, jamais tu vas blesser. Puis s'il arrive quelque chose, tu vas te pardonner. Peu importe. Mais la Bible nous enseigne, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. Ouais, non. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Dieu recherche des personnes dans notre belle Église qui sont authentiques et vraies et sincères dans la foi, dans leur amour, afin d'attirer ou rejoindre des gens qui sont tannés de tout ce qui est artificiel. Si on s'imagine que notre génération dans laquelle on vit aime l'artificiel, c'est pas vrai. Ils sont séduits. Ils sont aveuglés. Mais quand ils vont goûter au vrai amour de Jésus-Christ, au travers de nos vies, ils vont découvrir qu'il y a quelque chose de meilleur, une vraie relation avec Dieu, une vraie relation avec des hommes et des femmes, d'être authentique et vrai, sans penser arrière, sans agenda caché, sans être mesquin, mais des personnes qui vivent l'amour de Dieu d'une façon authentique et vraie se manifestent dans leur relation avec les autres. Amen. Tous ceux que vous vous isolez, là, vous ne vivez pas l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, si tu vis avec les autres. Amen. Toi qui te caches, là, ça c'est du Québécois solide, toi qui te caches. Toi qui te caches, là, parce que tu as peur de ci, tu as peur de ça, c'est pas la volonté de Dieu, ça. On l'a chanté un matin que Dieu bannit la crainte. On est appelé à vivre en communauté. La première église vivait ensemble. Arrête d'être chez vous tout seul, parce que sais-tu qu'est-ce qui arrive? Tes pensées te jouent des tours. Puis là, tu penses toutes sortes d'affaires qui n'est pas de Dieu. Mais quand tu es dans la communauté, puis tu vis des relations authentiques avec l'amour de Dieu, avec tes frères et tes sœurs, tu te rends compte qu'il y a quelque chose de meilleur et salutaire. J'en reviens pas comment des chrétiens, on a peur puis on s'isole. Je suis tanné. Je le dis, je suis tanné. Je ne comprends pas qu'on peut se laisser berner à rester. Je vais rester chez nous. Puis là, je vais faire ma petite affaire. Non, parce que ta petite affaire, c'est pas ça que Dieu t'a appelé. C'est de faire son affaire à lui. Puis son affaire à lui, c'est que tu sois parmi le peuple de Dieu. Puis que tu sois dans le monde. Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les préserver du mal. C'est dans la Bible, ça. Ouais, mais il y a toutes sortes de choses qui s'en viennent dans le monde. C'est pas grave. Dieu il a dit qu'il était pour nous protéger. Dieu a dit qu'il était pour être avec nous. C'est quand ça va se corser que ça va être le temps de témoigner. Ça ne sera pas de dire, ben, on se reste chez nous, puis on fait notre petite affaire, puis l'Église, le Seigneur vient nous chercher. Hey! C'est pas ça, l'Église. On n'est pas né de nouveau pour ça. Si tu es né de nouveau pour rester chez vous, pour attendre l'enlèvement du Seigneur, bonne chance. Mais quand tu vas arriver au ciel, Dieu va dire, je te connais pas. J'ai fait ceci. Non, non, je te connais pas. Parce que ceux qui vont entrer au ciel, c'est ceux qui vont accomplir la volonté du Père. Ouais, t'es dur un matin, pasteur. Ouais, pasteur, il est irrité un peu. T'es irrité un peu parce que sans le vouloir, l'ennemi est en train de s'infiltrer dans des vies pour pouvoir saper ce qu'on est supposé de faire. Et moi, mon désir, c'est qu'on soit vrai, puis authentique, puis sincère. On vit dans une des meilleures époques pour témoigner Jésus-Christ. Vous n'êtes pas là un matin. On vit dans une époque où c'est le meilleur temps de partager notre foi. Les gens sont réceptifs plus que jamais. Les gens écoutent les nouvelles, voient ce qui se passe, regardent ce qui s'en vient. Ils ne sont pas dupes. Ils n'ont aucune réponse. Ils remarquent, le gouvernement n'a pas de réponse à nos affaires. Oh, les finances, ils n'ont pas de réponse à nos affaires. Ils n'ont pas de réponse. Tout tient par un fil. Mais si l'enfant de Dieu qui a une connexion sincère avec Dieu, qui est vraie, qui n'est pas artificielle, il va prendre à cœur ces personnes-là pour leur partager son amour. Quand Nancy était à l'hôpital, elle était dans une chambre avec un monsieur, puis on priait pour que le Seigneur nous ouvre une porte pour pouvoir y parler. Il y avait tellement de visites, ce monsieur-là. C'est un homme d'affaires de la région. Je ne le connais pas. Ses employés venaient le voir pour lui tenir compagnie. C'est juste pour vous dire comment il était aimé. Puis Nancy a prié de son côté. Puis là, je dis, il faut pas que je manque. Seigneur, il ne faut pas manquer notre occasion. Puis on priait, puis on priait. Puis le dimanche passé, je suis allé chercher Nancy. Je dis, Seigneur, ça achève, là. On sort de la chambre. Puis juste avant qu'on sorte de la chambre, il nous a dit salut, puis il voulait savoir ce que je faisais dans la vie. J'ai dit que j'étais agronome. Non, j'ai dit que j'étais pasteur. Puis tout le temps, cet homme-là, je méditais, puis avec Nancy, on parlait, puis cet homme-là réalisait qu'avec tout ce qu'il avait accompli, il était en train de tout perdre. Parce que ça ne s'entendait pas bien. Il était triste. Tous les jours, il y avait ses employés qui venaient, ah, ça va bien aller, tu vois. Tu sais, les médecins vont t'aider. Puis là, le médecin venait, puis il l'encourageait. Tout le monde l'encourageait. Les gardes malades, les infirmières, les préposés. Moi, j'étais là, j'ai dit, il est en train de réaliser tout ce qu'il a bâti dans sa vie. Il ne peut pas l'emmener avec lui. Finalement, on parle avec. Il y avait de la famille qui était là. Un de ses employés que j'avais vu depuis 2 jours. Puis, il dit, tu sais, moi, mon rêve, là, je l'écoutais parler. Moi, j'aime les rendez-vous divins. Moi, j'aime ça, là. Quand tu es vrai et authentique, là, puis tu ne forces pas la note, puis tu laisses Dieu agir. Il dit, moi, là, mon rêve, c'était de me construire une entreprise, être millionnaire, puis me bâtir une chapelle. Quoi? Il dit là, j'ai bâti mon entreprise, je suis millionnaire, la prochaine étape, c'est bâtir ma chapelle. Une grosse chapelle, là. Il dit, ça donne bien, moi je veux un gymnase pour mon église, là, je commence à jaser avec. J'ose avec. Puis il me décrivait tout ce qu'il voulait faire parce qu'il avait un grand respect pour Dieu. Puis là, j'ai dit, je peux-tu prier pour vous? Il dit, oui. Là, son employé dit, je vais prendre ton nom dans son téléphone. Mets ton nom dans le téléphone. Si vous avez besoin, écrivez-moi, appelez-moi. Puis j'ai prié avec. Puis ça a été un moment vraiment bénissant de pouvoir juste être un chrétien qui partage sa foi. Puis je prie que Dieu puisse le toucher. Parce qu'il était vraiment sincère envers Dieu. Y avait-tu toutes les réponses à toutes? Y avait-tu des affaires qu'il ne devrait pas dire? Oui. Pas grave. Il était authentique. Il était vrai. Puis je rends grâce à Dieu que nous aussi, on peut être vrai et authentique. Puis c'est comme ça les gens vont vouloir de Jésus-Christ. Par nos relations authentiques et vraies. Avec nos collègues de travail, nos employeurs, nos amis qui ne sont pas chrétiens. En étant qui nous sommes, sans gêne, sans honte, mais simplement enfants de Dieu. Dieu recherche des belles personnes dans notre Église qui vont être authentiques et sincères dans leur foi, dans leur amour, pour attirer d'autres personnes à lui. Dans 2 Timothée, au chapitre 1, verset 3, regardez comment la foi sincère de personnes ont influencé un jeune homme. Dans 2 Timothée 1, 3, et on ne réalise pas comment quand on est authentique et vrai dans nos relations avec Dieu et les autres, comment ça a un impact pour la génération qui suit. Parce que ça nous dit, je rends grâce, et c'est l'apôtre Paul qui parle ici, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Paul aimait beaucoup Timothée. Et là, lui dit, Paul gardait un souvenir de Timothée, entre autres, gardant le souvenir de la foi sincère. Est-ce que quand les gens parlent de moi, est-ce que quand les gens, ou quand je parle des autres, je peux dire la même chose de la personne? Tu as une foi sincère. Tu as une foi vraie. Tu as une foi authentique. Tu as une foi qui n'est vraiment pas fake. Et dis-moi, rappelant ou gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, mais qui fut ou qui habita d'abord dans ta grand-mère. Ton aïeul Louis et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Tu vois, on veut influencer les générations. Soyons authentiques et vrais. Soyons sincères. Jésus fait partie de notre foyer. Amen. On ne le met pas de côté. Jésus fait partie de ma vie. Je ne le mets pas de côté. Je le vis avec une foi sincère. Et on voit que cet apôtre a été marqué comment ce jeune homme avait une foi sincère parce qu'elle lui a été transmise par des parents, une grand-mère puis une mère qui étaient avec une foi sincère. Si eux, qui ne sont pas des apôtres, qui ne sont pas des grands prédicateurs, qui n'ont même pas un ministère quelconque nommé dans la Bible, mais qui étaient authentiques et vrais, enfants de Dieu, et ont pris leur responsabilité d'être sincères et vrais avec leurs petits-fils et leurs fils. Comment on va élever une génération de jeunes hommes et de jeunes filles qui sont sincères avec Dieu? C'est trop facile, surtout les jeunes, de jouer à l'Église. Il y a plusieurs jeunes, là, quand vous les regardez, quand ils poussent, là, écoute, ça fait assez longtemps que je suis dans l'Église, là, tu les regardes, là, puis même moi, quand j'étais jeune, tu joues à l'Église à un moment donné. Tu viens à l'Église, on venait par acte de présence, mais quand le pasteur est fini, là, on s'en va. Mais à un moment donné, ces jeunes-là, quand ils sont rencontrés par Dieu, puis sont touchés par Dieu, là, watch out! Il y a quelque chose qui se passe dans leur vie. Et c'est là que la Bible nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il y a une transformation qui se fait. Ils ont eu un entretien avec Dieu. Mais ça commence par la grand-maman, ça commence par la maman. Et j'aimerais nous encourager comme parents, comme grands-parents. Mettons pas trop de choses dans l'agenda de nos enfants pour qu'ils ne puissent pas connecter avec Dieu. Ils ont des outils pour les attirer à Dieu. Amen. Ils ont besoin de Jésus. Dieu veut nous rappeler qu'on sera en mesure de faire une différence, de connecter avec les autres, si on a une relation authentique avec lui-même de l'intérieur et qui se manifeste à l'extérieur dans une génération qui en a besoin, qui est plongée dans l'artificiel. Dieu veut qu'on puisse inspirer d'autres à venir devant lui et s'approcher avec sincérité. Et ça, on va toucher un point important ce matin pour l'Église. Est-ce que nous pouvons développer une relation sincère et vraie, authentique dans la louange? Dans les temps d'adoration et de prière. Hébreux chapitre 10. Regardez ce que Dieu enseigne au verset 19. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères et les sœurs, nous avons moyen du sang de Jésus, une lime entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travail du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Et regardez bien le verset 22. Approche-nous donc avec un cœur quoi? Sincère. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ils vont même dire, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée. Ah, oh, c'est bon ça. C'est dans la Bible. Merci Seigneur. Il y a deux façons d'abandonner son assemblée. Pas venir, pas contribuer. Tu peux être dans l'Église puis abandonner ton assemblée parce que tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire. Ah, je ne la savais pas, celle-là. Moi, je la sais. Je suis pasteur. J'ai tellement vu de monde venir dans l'Église puis pas faire ce que Dieu leur demande de faire puis de passer à côté de l'appel de Dieu. Ça m'attriste tellement. Puis tu as des gens qui abandonnent l'Église pour peu importe la raison. Il dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous. Ah, j'aime ça parce que la responsabilité tombe sur les membres, sur les frères et les sœurs, pas sur les dirigeants seulement. Mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous croyez que Jésus s'en vient?
Amen.
C'est le temps d'être à l'Église.
Amen.
Vous venez de répondre à la question. C'est le temps d'être rassemblés. C'est le temps d'être ensemble. C'est le temps d'être au cours alpha. On s'est fait pogner. Moi, je me souviens des chrétiens, les plus vieux chrétiens, ils étaient à l'église lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. J'en ai-tu entendu parler de ces histoires-là? On allait à l'église le dimanche. Là, le lundi, il y avait de la prière. Mardi, c'était l'étude. Mercredi, c'était la réunion. Jeudi, c'était une affaire. Vendredi, c'était la jeunesse. Samedi, c'était l'évangélisation. Amen. Ouais, mais dans le temps, là, dans le temps, il y avait 15 enfants. C'est vrai. Moi, je me souviens, Saint-Hyacinthe, l'Église a plus de 85 ans, là. Puis les familles, là, quand ça se convertissait, c'était pas 2 puis 3, là. C'était 10, 9, 15, 12, 14. Puis nous autres, on était tous là-dedans, là, puis on était bénis, tout savoir, toute la gang. Il y a quelque chose quand tu viens avec tes frères et tes sœurs que tu ne retrouves pas ailleurs. Il y a quelque chose quand tu viens dans la présence de Dieu, que tu peux venir dans la présence de Dieu. Il y a des circonstances qu'on ne peut pas. Mais quand tu peux, il y a quelque chose que tu ne retrouves pas ailleurs quand tu es avec tes frères et tes sœurs. Sinon, Dieu n'aurait pas créé l'Église. Mais il faut s'approcher avec un cœur sincère. On a un défi comme Église. Et je nous lance un défi comme Église. Pour nos temps de louange et nos temps de prière. De venir de plus en plus à Dieu avec des cœurs sincères. Est-ce qu'on peut laisser de côté tout ce qui est artificiel et ce qui est fake? Est-ce qu'on peut juste venir dans la présence de Dieu et baigner dans la présence de Dieu? Arrêtez de faire semblant. Il y en a qui font semblant dans l'Église? Eh oui. Semblant d'être vrai, semblant de venir louer pour les bonnes raisons, semblant. Voyons, pasteur, c'est quoi ça? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a un verset qui dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Quand on fait un appel ou quand vous venez à l'Église, là, soyons vrais. Soyons pas artificiels pour démontrer quelque chose. Les jeunes, là, soyez vous-même. Essayez pas de copier, essayez pas d'imiter. Puis quand on loue Dieu, on peut-tu pas regarder ce que les autres font? Bon, là, on tombe dans les vraies affaires, là, des histoires là, d'église. Là. Il y en a, vous êtes bons avec les clins d'œil. C'est pas les clins d'œil de Dieu, ça. Ma chemise, es-tu bien? Mon chandail, mes mains sont correctes. Ma voix n'est pas trop forte, là. C'est bon. Hey, on peut-tu arrêter d'être religieux puis juste louer Dieu? Peux-tu venir tel que nous sommes puis se présenter devant Dieu? On peut-tu juste dire merci Seigneur, gloire à Dieu? Ouais, mais si je dis quelque chose qui sort tout croche, qu'est-ce que l'autre va dire? S'il est concentré sur Dieu, il ne s'inquiétera pas de ce que tu dis parce qu'il va être en train de recevoir quelque chose de Dieu. J'aimerais ça aussi que quand on vient dans la présence de Dieu, qu'on arrête de garder des choses. Je sens dans mon cœur que quand on s'approche de Dieu comme Église, on garde des choses comme si tout allait bien, mais en réalité, ça ne va pas bien. Puis on n'est pas sincère avec Dieu. Dieu dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Quand on chante, je m'abandonne, c'est ça que ça veut dire, je m'abandonne, là. Prends tout, Seigneur. Si chacun de nous, on prend Dieu au sérieux, puis on s'approche de lui avec un cœur sincère, et ça, c'est une promesse, on va voir les vraies délivrances, les vraies guérisons, la vraie liberté puis la vraie puissance de Dieu dans notre Église puis dans nos vies. Parce qu'on va être sincère puis vrai. La preuve, psaume 145. Verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec quoi? Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, ça c'est de ceux qui le prennent au sérieux. Il entend leurs cris et les sauve. Les autres vont être inspirés puis encouragés de faire la même chose que nous. Si nous, on décide de s'approcher de Dieu avec des cœurs sincères. Je parlais avec une personne de l'Église à un moment donné, puis elle me contait comment elle vivait sa foi. Puis elle dit, « Pasteur, je me retiens de vivre ma foi d'une façon parce que je vais être forte, puis ainsi de suite. » J'ai dit, « Non, j'ai dit, fais pas ça. » Elle dit, « Pourquoi? » Puis j'ai dit, « Si tu vis ta foi sincère, tu vas inspirer un autre à le faire, peut-être qui vit une difficulté avec ça. » Tu vas lui montrer que c'est possible, puis il va être touché, puis il va être encouragé, puis il va être inspiré. Moi, j'ai appris à louer Dieu en regardant mon frère. Il y en a qui vous la savez, mon histoire, là. Mais je voyais mon frère lever ses mains, répandre son cœur, ouvrir sa bouche, puis quand je le voyais béni, j'ai dit, « Moi, Seigneur, je veux ça. » J'ai commencé à ouvrir ma bouche, mon cœur, puis lever mes mains. Puis là, à cette heure, j'ai ça. J'ai vu ma mère prier à genoux, puis prier le Seigneur, je veux ça. Commence à prier à genoux, j'ai ça. J'ai vu mon père témoigner, comme ça se peut pas, à toute personne, tout le temps trouver une occasion de témoigner. Du mieux de ma capacité, je le regardais, je veux ça. Je veux être libre de témoigner comme ça, je le veux ça. J'ai vu ma sœur d'une douceur, d'une bonté qui est capable d'aller rejoindre tous les petits-enfants, puis de les avoir tous à côté d'elle, puis d'avoir du bon temps avec elle, puis qu'ils se souviennent de son nom, puis qu'ils ont du plaisir avec elle. Moi aussi, je veux ça. J'ai vu mon autre sœur. Ben, je peux toutes les dépeindre, là, mes frères et mes sœurs, tout ce qu'ils m'ont apporté dans ma vie, je le sais. J'en ai une de mes sœurs, elle donnerait sa chemise à n'importe qui. Tu es dans le besoin, prends-la. T'en as-tu un autre? Non, Dieu va pourvoir, prends-la. Tu es dans le besoin? Vas-y, prends ça. Donner tout ce qu'elle a pour quelqu'un qui est dans le besoin, puis dire, c'est pas grave, Dieu va pourvoir. Moi, ma sœur, une de mes sœurs est comme ça. Est-ce qu'on est capable de vivre notre foi sincère pour inspirer l'autre à vivre sa foi sincère? Est-ce qu'on est capable de développer ici, dans notre belle église, une culture, un endroit de sincérité, d'authenticité, de vérité et pas de religiosité? De nous laisser, ou plutôt de laisser les regards de jugement pour des regards de compassion. De toute façon, avant d'enlever la paille dans l'œil de l'autre, j'ai enlevé la poudre dans la mienne. Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer, s'il vous plaît. Je vais nous demander de nous lever à notre place. Je vais terminer avec des versets dans Pierre, 1 Pierre chapitre 1. Le mot sincérité, le mot authentique, le mot vrai, ces mots-là, pour moi comme pasteur, c'est... Puis comme moi, comme individu, comme être humain, sont très importants. Vous parlerez à mes enfants, la chose que je déteste le plus, c'est le mensonge. Mes enfants savent, si tu me comptes une menterie, là, tu viens d'atteindre le plus haut niveau degré de papa sévère, papa ci, papa ça. Je peux tout vivre, mais si tu me comptes une menterie, puis je ne peux pas le croire que dans ma famille de sang, je serais capable de duper quelqu'un. Je peux pas concevoir que dans ma famille de sang, que je vais mentir ou je vais faire quelque chose de fake, une façade, parce que tu es ma famille de sang. Tu es mon enfant, tu es ma femme, tu es mon frère, tu es ma sœur. Mais l'Église, c'est une Église de frères et de sœurs de sang Jésus-Christ. Et je ne peux pas concevoir que dans le corps de Christ, on n'est pas capable d'être honnête et vrai et sincère. Parce qu'on a tous le même esprit, on a tous le même amour, on est tous supposés d'avoir la même affaire. À des degrés différents selon la foi, selon notre désir, notre soif. Si tu as soif comme ça, Dieu va te donner comme ça. Si tu as soif comme le monde, il va te donner comme le monde. Mais je ne peux pas croire que dans une église, on ne peut pas être sincère, qu'on peut être croche, qu'on peut être de façade. Ça ne me rentre pas dans le cœur. Parce que quand je regarde Jésus-Christ, quand je regarde mon Père céleste, malgré toutes les choses tout croche que j'ai pu faire dans ma vie, il m'a accepté tel que je suis pour me transformer à l'image de son Fils. Et moi, je n'accepterai pas d'autres personnes, je ne serais pas capable de vivre avec d'autres personnes, puis je ne serais pas capable de faire attention, puis de vivre dans l'amour, puis de vivre avec l'Esprit de Dieu, puis de m'en prendre à un, puis à l'autre. Ça ne me rentre pas dans le cœur. Excusez, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Parce que quand je regarde l'amour de Dieu, ce n'est pas ça. Et Pierre nous le dit très bien ici, vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, au verset 17. « Conduisez-vous avec crainte, avec sérieux pendant le temps de votre séjour sur la terre. Ne savez-vous pas, vous savez plutôt que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Par lui, Jésus-Christ, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Et c'est là le verset important pour ce matin. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir... » Pourquoi qu'on obéit à la vérité pour avoir des âmes purifiées? Pour avoir un amour fraternel sincère. faut que ça soit sincère entre nous. Faut que ça soit vrai. Faut que ça soit authentique. Que les personnes qui vont rentrer ici vont être marquées. Mais ils s'aiment vraiment. C'est pas fake. C'est pas de la façade. C'est pas une étiquette religieuse qu'un poisson ou une croix. C'est authentique. C'est vrai. Ils me connaissent même pas, puis ils m'aiment. Avant qu'on aime Dieu, Dieu nous a aimés. Là, il dit, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Pas le cœur à moitié. Pas le cœur à trois quarts. Tout votre cœur. Vous avez été régénérés non par une semence incorruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. On peut, et je le déclare devant Dieu, on peut, avec un amour sincère, vrai, authentique, développer une atmosphère de louange, d'adoration, de prière, de temps fraternel qui vont faire goûter et vivre la gloire de Dieu au milieu de nous.
Amen.
À un niveau d'intensité jamais qu'on a vécu parce qu'on va être sincère.
Amen.
Parce qu'on va laisser tomber les façades, les masques et toute autre chose et juste dire, Seigneur, je m'abandonne. Je viens à toi. Je cours vers le Père. Ou mes enfants, ils ne regardent pas s'ils ont un petit quelque chose sur le nez ou quand ils avaient les cheveux peignés ou pas peignés, quand ils avaient besoin, ils couraient vers leur papa. Papa, j'ai besoin. Il tombait, là. Il court. Il courait vers moi et dit, papa, là, je me suis fait mal. Il ne regardait pas s'il était bien habillé. Ils ont mal. Ils souffrent. Quand mes enfants ont des bonnes notes, des affaires, normalement, ils étaient contents de venir me dire, ils ne regardaient pas s'il était bien. Papa, j'ai réussi. On oublie qu'on a un Père céleste. On oublie quand on devient adulte, on est encore des enfants de Dieu.
Amen.
La foi simple comme un enfant. Et je crois qu'il faut créer, en terminant, avec l'aide du Saint-Esprit et l'amour, la sincérité, un endroit où chaque personne sera en mesure de devenir telle qu'elle est, sans crainte, sans façade, une communauté de personnes qui sont en mesure d'accueillir les gens avec l'amour de Dieu, avec la vérité, afin qu'ils puissent se tourner librement et volontairement vers Dieu et recevoir avec foi ce que Dieu a prévu pour eux et pour nous. Moi, je le crois de tout mon cœur. Et je prie que c'est votre désir. Ouais, je suis sincère, pasteur. Parfait. Je suis aux places à l'amélioration. Moi, je dis amen à ça. Ce matin, tu veux chanter quoi? L'amour a triomphé. J'aimerais ça qu'à notre place, on peut se coller les uns avec les autres, ceux qui le veulent. Là. Puis on va chanter « L'amour a triomphé ». Vous pouvez le faire maintenant. Collez-vous avec quelqu'un. Votre mari, votre femme, votre collègue là, qui est à côté, votre frère, votre soeur. Mettez-vous ensemble. Si vous avez à cœur, mettez-vous avec quelqu'un. Vous pouvez changer de place et aller vous mettre avec quelqu'un. On est comme dans notre salon ici, là, spirituel. Là. Puis Dieu veut agir. Puis on va chanter « L'amour a triomphé ». Mais chantez-le avec quelqu'un. Chantez-le que l'amour a triomphé. Puis chantons que l'amour va triompher de tout ce qui est artificiel pour nous rendre authentiques et vrais devant Dieu. Amen.
Amen.
Puis on va prendre un temps pour louer Dieu ce matin, avec sincérité. Que Dieu bénisse notre Église. Manque un amen, là.
Amen.
Que Dieu bénisse les âmes. Que cette église soit un refuge.
Amen.
Que cette église soit une forteresse.
Amen.
Que cette église soit une maison d'accueil. Un hôpital spirituel.
Amen.
Un lieu où Dieu siège et habite. Où il est élevé, adoré. Et où son peuple s'approche avec un cœur sincère.
Amen.
Amen. Chantons de tout notre cœur.